On aurait pu dire que dans la demeure fourbue des Buendia régnait désormais pour longtemps une paix et un bonheur routiniers. Mais la mort subite d'Amaranta provoqua un nouveau scandale. On ne s'attendait pas à un pareil événement. Bien qu'elle fût vieille et vécue à l'écart de tous, on la voyait encore solide, droite comme un piquet, avec la santé de fer qu'on lui connut toujours. Personne ne sut plus rien de ce qu'elle pensait depuis cet après-midi où elle avait définitivement repoussé le colonel Grinaldo Marquez et s'était recluse pour pleurer. Quand elle refit son apparition, elle avait épuisé toutes ses larmes. On ne la vit pas pleurer le jour de l'ascension de Remedios la Belle, ni au moment de l'extermination des Aureliano, non plus que pour la mort du colonel Aureliano Buendia, qui était l'être qu'elle avait le plus aimé en ce monde, bien qu'elle ne pût se le prouver qu'après la découverte de son cadavre sous le châtaignier. Elle aida à soulever le corps, elle le revêtit de ses ornements guerriers, le rasa, le peigna, et lui cosmétiqua les moustaches avec encore plus de soin qu'il n'en mettait lui-même en ses années de gloire. Nul ne songea qu'il pouvait y avoir de l'amour dans de tels gestes, car tout le monde s'était habitué à la familiarité d'Amaranta avec le rituel de la mort. Fernanda s'offusquait de ce qu'elle ne comprit rien au rapport de la foi catholique avec la vie, mais seulement à ses rapports avec la mort, comme si ce n'avait pas été une religion mais un prospectus de pompes funèbres. Amaranta était trop empêtrée dans les raies de ses souvenirs pour comprendre tant de subtilités apologétiques. Elle était parvenue au dernier âge de l'existence avec toutes ses nostalgies encore vivaces. Lorsqu'elle écoutait les valses de Pietro Crespi, elle se sentait les mêmes envies de pleurer qu'elle éprouvait du temps de son adolescence, comme si les ans, les épreuves, l'expérience n'avaient servi de rien. Les rouleaux de musique qu'elle avait elle-même jetés aux ordures sous prétexte qu'ils étaient en train de pourrir à cause de l'humidité continuaient de tourner et de heurter des petits marteaux dans sa mémoire. Elle avait tenté de les faire disparaître derrière cette passion fangeuse qu'elle avait osé porter à son neveu Aureliano José, et avait essayé de se réfugier sous la calme et virile protection du colonel Grinaldo Marquez, mais elle n'était pas parvenue à s'en défaire, même en se livrant à l'acte le plus désespéré de sa vieillesse, lorsque, baignant le petit José Arcadio, 3 ans avant son départ pour le séminaire, elle l'avait caressé de toute autre façon qu'une grand-mère avec son petit-fils, mais comme l'eût fait une femme vis-à-vis d'un homme, comme on racontait que s'y employaient les matrones françaises, et comme elle-même avait tant désiré le faire sur la personne de Pietro Crespi à 12 ou 14 ans, lorsqu'elle l'avait vu dans son pantalon collant de danseur, frappant de sa baguette magique au rythme du métronome. Parfois, elle souffrait d'avoir laissé derrière elle cette traînée de boue, et d'autres fois, elle l'enrageait tellement qu'elle se piquait les doigts avec ses aiguilles. Mais plus elle avait mal, et plus elle enrageait, plus la rendait amère ce chagrin d'amour parfumé et véreux dont elle devait laisser des traînées jusqu'à sa mort. Comme le colonel Aureliano Buendia ne pouvait éviter de penser à la guerre, Amaranta ne pouvait s'empêcher de penser à Rebecca. Mais alors que son frère avait réussi à stériliser ses souvenirs, elle n'était parvenue qu'à rendre les siens plus brûlants. Pendant de longues années, la seule chose qu'elle pria Dieu de lui épargner fut le châtiment de mourir avant Rebecca. Chaque fois qu'elle passait devant la maison et qu'elle notait les progrès de sa ruine, elle se plaisait à penser que Dieu l'entendait. Un après-midi qu'elle était occupée à coudre sous la véranda, elle eut soudain la certitude que la nouvelle de la mort de Rebecca lui serait portée un jour qu'elle serait assise au même endroit, dans la même position, éclairée par la même lumière. Elle resta assise, à l'attendre, comme quelqu'un qui attend une lettre, et il est vrai qu'à une certaine époque, elle se mit à arracher ses boutons pour pouvoir les recoudre, afin que l'inaction ne rendît pas plus longue et plus angoissante son attente. À la maison, nul ne remarqua qu'à dater d'alors, Amaranta se mit à tisser un somptueux linceul pour Rebecca. Plus tard, quand Aureliano le Triste raconta qu'il l'avait vu changer en ce qu'il pensait être une apparition, avec sa peau toute craquelée et les quelques touffes jaunâtres qui lui restaient sur le crâne, Amaranta ne fut pas surprise, car le spectre ainsi décrit était semblable à ce qu'elle imaginait depuis longtemps. Elle avait projeté de restaurer le cadavre de Rebecca, de dissimuler les ravages du visage à l'aide de paraffine et de lui faire une perruque avec les cheveux des statues de saints. Elle confectionnerait un beau cadavre et, dans le linceul de lin et un cercueil capitonné de peluches avec des volants de pourpre, elle le confierait au bon soin des vers en de magnifiques funérailles. Elle en élabora le plan avec une telle haine que l'idée qu'elle aurait pu en faire tout autant par amour la fit frémir. Mais elle ne se laissa pas démonter par cet instant de confusion et continua de mettre au point les moindres détails avec tant de méticulosité qu'elle en devint non pas seulement une spécialiste, mais une vraie virtuose des rites de la mort. Le seul détail dont elle ne tint pas compte dans son terrible projet était qu'en dépit de ses prières au bon Dieu, elle pouvait fort bien mourir avant Rebecca. Ce qui arriva dans les faits. Mais quand la fin sonna, Amaranta ne se sentit pas frustrée et se trouva au contraire libérée de toute amertume, car la mort lui avait accordé le privilège de s'annoncer avec plusieurs années d'avance. Elle la vit, par un midi brûlant, en train de coudre aux côtés d'elle, sous la véranda, peu après le départ en pension de Mémé. Elle la reconnut sur le champ et ne lui trouva rien d'effrayant. La mort était une femme vêtue de bleu, aux cheveux longs, l'air un peu passé de mode, à qui l'on pouvait trouver une certaine ressemblance avec Pilar Ternera du temps qu'elle aidait à la cuisine. Il arriva à plusieurs reprises que Fernanda fut présente, mais elle ne la remarqua point malgré son caractère bien réel et si humain qu'une fois, elle en vint à demander à Amaranta de bien vouloir enfiler son aiguille. La mort ne lui précisa pas quand elle devait mourir, ni si sa dernière heure était inscrite avant celle de Rebecca, mais elle lui donna l'ordre de commencer à tisser son propre linceul dès le 6 avril suivant. Elle lui permit de s'en faire un aussi ouvragé, aussi ravissant qu'il lui chantait, à condition qu'elle y mît autant de probité qu'à confectionner celui de Rebecca, et l'avertit qu'elle devait mourir sans douleur, ni peine, ni amertume, à la tombée du jour où elle en viendrait à bout. Essayant de perdre le plus de temps possible, Amaranta envoya chercher du fil de lin d'une extrême finesse, et fabriqua elle-même la toile. Elle y mit tant de soin que cette seule opération lui prit 4 ans. Puis elle commença les travaux de broderie. Au fur et à mesure que se rapprochait le terme fatal, elle comprit que seul un miracle pourrait lui permettre de prolonger son labeur au-delà de la mort de Rebecca, mais sa concentration d'esprit lui dispensa le calme dont elle avait besoin pour se faire à l'idée d'une éventuelle frustration. C'est alors qu'elle perçut la signification du cercle vicieux des petits poissons en or dans lequel s'était enfermé le colonel Aureliano Buendía. Le monde s'arrêta désormais à la surface de son épiderme et l'intérieur resta préservé de toute amertume. Elle souffrit de ne pas avoir connu cette révélation nombre d'années auparavant, quand il lui était encore possible de purifier ses souvenirs et de reconstruire l'univers sous un jour nouveau, d'évoquer sans frémir l'odeur de lavande de Pietro Crespi au crépuscule, et d'enlever Rebecca à la misère dans laquelle elle baignait, non plus par amour ni par haine, mais par cette compréhension sans limite dont la douait la solitude. La haine qu'elle crut remarquer un soir dans les paroles de Mémé ne la troubla point parce qu'elle s'était sentie visée, mais parce qu'elle se découvrit soudain répétée dans une autre adolescence, aussi propre apparemment qu'avait dû sembler la sienne, et pourtant gâtée par la rancœur. Mais elle était déjà si profondément résignée à l'accomplissement de son destin qu'elle ne se laissa pas tourmenter par la certitude que tout retour en arrière et toute rectification était devenue impossible. Elle n'eut plus d'autre but que d'achever son linceul. Au lieu d'en retarder la fin par de vaines fioritures, comme elle avait fait au début, elle accéléra le rythme de son travail. Une semaine à l'avance, elle calcula qu'elle ferait le dernier point dans la nuit du 4 février, et sans en révéler la raison, elle suggéra à Mémé, qui ne l'écouta pas, de décaler la date d'un récital de clavecin prévu pour le lendemain. Amaranta chercha alors quelque façon de se prolonger elle-même de 48 heures, et elle put penser que la mort avait répondu à ses vœux quand, dans la nuit du 4 février, un orage fit sauter l'installation électrique. Mais le lendemain matin, à 8 heures, elle mit le point final au plus ravissant ouvrage qu'aucune femme eût jamais achevé, et annonça sans dramatiser le moins du monde qu'elle mourrait avant la tombée de la nuit. Elle ne se contenta pas de prévenir sa famille, mais avertit également tout le village, car Amaranta s'était mis dans l'idée qu'elle pouvait réparer toute une vie de mesquinerie par un dernier service rendu au monde, et pensa qu'il n'en était pas de meilleur que de porter des lettres aux morts. La nouvelle qu'Amaranta Buendía levait l'ancre à la tombée du jour, en se chargeant du courrier de la mort, se répandit dans Tumacondo avant midi, et vers 3 heures, il y avait déjà dans la salle commune une grande boîte pleine de missives. Ceux qui préféraient ne pas écrire confièrent à Amaranta des messages oraux qu'elle consigna dans un cahier avec le nom du destinataire et sa date de décès. « Ne vous faites pas de soucis, » disait-elle, en tranquillisant les expéditeurs. « La première chose que je fais en arrivant, c'est de demander à le voir pour lui remettre votre message. » Tout cela avait l'air d'une comédie. Amaranta ne paraissait inquiète d'aucune manière, ni souffrir le moins du monde, et allait même jusqu'à sembler légèrement rajeunie par le sentiment du devoir accompli. Elle était toujours aussi élancée, aussi droite. Sans ses pommettes saillantes devenues plus dures et les quelques dents qui lui manquaient, elle aurait eu l'air bien moins âgée qu'elle ne l'était en réalité. Elle veilla à ce que les lettres fussent placées dans une caisse étanche et indiqua comment la disposer à l'intérieur de sa tombe afin de la mieux préserver de l'humidité. Au cours de la matinée, elle avait fait appel à un menuisier qui prit ses mesures pour le cercueil, debout au milieu de la salle, comme s'il se fût agi d'une robe. Durant ces dernières heures se réveilla en elle un tel dynamisme que Fernanda eut l'impression qu'elle était en train de se payer leur tête. Ursula, sachant par expérience que les Buendia ne mouraient pas de maladie, ne mit pas en doute qu'Amaranta avait reçu le présage de sa mort. Mais elle craignait par-dessus tout que cet afflux de lettres et l'impatience de les voir acheminer au plus vite ne conduisent les expéditeurs, dans leur égarement, à l'enterrer vivante. C'est pourquoi elle s'obstina à faire évacuer la maison, se disputant à grands cris avec les intrus, et vers 4 heures de l'après-midi, elle était arrivée à ses fins. À la même heure, Amaranta achevait de distribuer ses affaires personnelles aux pauvres et n'avait gardé sur son sévère cercueil de bois brut que les vêtements de rechange et les modestes chaussons en velventine qu'elle emporterait dans la mort. Elle n'avait pas omis de prendre cette précaution, car elle se souvenait qu'à la mort du colonel Aureliano Buendia, on avait dû lui acheter une paire de souliers neufs parce qu'il n'avait plus rien à se mettre aux pieds, hormis les pantoufles qu'il chaussait dans son atelier. Peu avant 5 heures, Aureliano le second s'en vint chercher Mémé pour le récital et fut surpris de voir la maison préparée comme pour un enterrement. Si quelqu'un avait l'air tout à fait vivant à cette heure-là, c'était bien Amaranta, si calme qu'elle avait même trouvé le temps d'émincer et de poncer ses durillons. Aureliano le second et Mémé prirent congé d'elle en lui faisant par plaisanterie leurs adieux et lui promirent de faire la fête le samedi suivant pour célébrer sa résurrection. Attirée par la rumeur publique d'après laquelle Amaranta se faisait confier des lettres destinées aux morts, le père Antonio Isabel arriva sur le coup de 5 heures avec le viatique et dut attendre un bon quart d'heure que la moribonde sortit de son bain. Lorsqu'il la vit apparaître en chemise de nuit de percale, les cheveux épars sur ses épaules, le vieux curé crut qu'on se moquait de lui et renvoya l'enfant de cœur. Il pensa pourtant profiter de l'occasion pour confesser Amaranta après bientôt 20 ans de refus obstiné. Amaranta se borna à répliquer qu'elle n'avait besoin d'aucune sorte d'assistance spirituelle puisqu'elle avait la conscience nette. Fernanda en fut outrée. Sans prendre garde à ne pas être entendue, elle se demanda à voix haute quel épouvantable péché avait bien pu commettre Amaranta pour préférer une mort sacrilège à la honte de se confesser. C'est alors qu'Amaranta se coucha et obligea Ursula à attester publiquement qu'elle était restée vierge. « Que personne ne se fasse d'illusions » cria-t-elle pour être entendue de Fernanda. « Amaranta Buendia quitte ce monde comme elle y est venue !» Elle ne se releva plus. Calée entre des oreillers comme si elle avait été vraiment malade, elle tressa ses longues nattes et se les enroula sur chaque oreille, ainsi que la mort lui avait dit devoir être apprêtée dans son cercueil. Puis elle demanda un miroir à Ursula, et pour la première fois depuis 40 ans, elle vit son visage ravagé par l'âge et le martyre qu'elle avait souffert, et fut surprise de constater combien elle ressemblait à l'image mentale qu'elle s'était faite d'elle-même. Au silence qui régnait dans la chambre, Ursula comprit qu'il avait commencé à faire sombre. « Fais tes adieux à Fernanda, » la supplia-t-elle. « Une seule minute de réconciliation mérite mieux que toute une vie d'amitié. »«
Ça n'est déjà plus la peine, » répondit Amaranta.
Mémé ne put s'empêcher de penser à elle quand se rallumèrent les feux de la scène improvisée et que commença la seconde partie du programme. Au milieu du morceau, quelqu'un vint lui annoncer la nouvelle à l'oreille et la représentation fut interrompue. Lorsqu'il arriva à la maison, Aureliano le second dut jouer des coudes pour se frayer un chemin à travers la foule afin de contempler le cadavre de la vieille pucelle, hideux, d'une sale couleur avec sa bande noire autour de la main, enveloppée dans un linceul ravissant. On l'avait exposé dans la salle commune à côté de la grosse boîte à lettres.